Seigneur, au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Voilà, nous pensons clôturer aujourd'hui la série sur le paysage chrétien, l'environnement chrétien. Donc on avait expliqué que le paysage chrétien n'était pas uniforme. Ce n'était pas composé que de mêmes pièces. Il y avait plusieurs pièces. Et dans ces pièces, il y avait les faux serviteurs. Il y avait les infiltrés. Il y avait les chrétiens charnels. Et aussi les chrétiens spirituels dont on va parler pour clôturer. Et on a décrit plusieurs sortes de chrétiens charnels afin de nous aider à supporter la présence dans l'environnement chrétien des gens qui n'ont pas le comportement que Dieu attend d'un enfant de Dieu. Mais Dieu a permis que les choses soient ainsi afin de nous aider aussi à grandir. Lorsque nous sommes entourés d'un paysage composé de personnes différentes, ça nous aide aussi à grandir par les frictions, par les confrontations. Le but, c'est de nous rendre meilleurs, c'est pourquoi Dieu permet cela. Mais nous donnions cet enseignement afin que les chrétiens ne tombent pas dans le péché, les véritables ne tombent pas dans le péché en côtoyant toutes ces personnes qui peuvent être des occasions de chute et qu'il n'y ait pas la surprise. Donc que chacun soit prêt à accepter cette réalité-là et à la négocier avec la grâce divine, avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore trois catégories de chrétiens charnels à visiter. Nous prenons Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Hébreux 13, 17. Il est écrit ceci: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Nous lisons aussi 1 Pierre 5. 1 Pierre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain berger paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc ces deux passages nous parlent de l'obéissance et de la soumission aux aînés, aux autorités dans spirituelles. Et un autre genre de chrétien qu'on va rencontrer dans le paysage, dans l'environnement chrétien, c'est les gens qu'on peut nommer, entre guillemets, de rebelles, des gens qui n'aiment pas à se soumettre et à obéir à d'autres personnes. Donc c'est maintenant, quand on a pris 1 Pierre 5 pour montrer qu'il ne s'agissait pas seulement de se soumettre aux gens qui sont élevés vraiment d'une manière visible devant nous, mais on doit se revêtir d'humilité dans nos rapports. Donc c'est écrit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Donc il ne s'agit pas d'une soumission dirigée que, envers des gens qui sont clairement élevés, mais parfois envers des gens avec qui nous sommes horizontalement au même niveau en apparence, mais que Dieu peut utiliser pour nous éduquer, pour nous aider. Donc il nous est demandé de nous soumettre donc les uns aux autres en quelque sorte. Donc c'est pas seulement envers des gens qui sont visiblement élevés devant nous. Et il y a des chrétiens dans le paysage chrétien qui n'aiment pas se soumettre à d'autres personnes, et donc ils finissent par s'égarer, parce que quand on ne se soumet pas à des humains, on finira par rejeter Dieu lui-même, parce que Dieu, on ne le voit pas. Donc on peut tout lui prêter, hein, puisqu'on ne le voit pas. Alors qu'un humain, si on dit quelque chose de faux, il peut nous dire directement là, mais non, non, moi, je n'ai pas dit ça. Mais Dieu, on ne le voit pas. Donc c'est ainsi que chacun invente sa vision. Beaucoup inventent leur vision en disant Dieu. Puisque Dieu n'agit pas comme nous les humains, du tic au tac pour dire, mais non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ceci. Il peut toujours le faire, mais il n'agit pas continuellement ainsi. Parce qu'il a d'autres façons de faire. Et si on n'est pas capable de s'humilier devant les humains, en réalité, devant Dieu lui-même, on est rebelle. C'est l'erreur que commettent beaucoup de personnes. En fait, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont capables d'être soumis à Dieu tout en déconsidérant les humains. Mais c'est impossible. Puisque Dieu utilise les humains. Si tu dis que tu es soumis à Dieu, mais tu ne veux pas te soumettre aux humains, mais finalement tu ne te soumettras pas à Dieu, puisque Dieu lui passe par les humains. Et le meilleur exemple, c'est toi-même. Quand ça viendra ton tour, tu voudrais que les gens t'écoutent, que les gens te suivent. Maintenant, si les gens s'opposent à toi, ben, tu vas crier, tu vas dire, mais ce n'est pas comme ça, c'est Dieu qui m'envoie vers vous. Voilà. Donc si toi, tu veux que toi, les gens t'écoutent, mais toi, tu ne veux pas écouter les autres, donc il y a un problème de rébellion dans le cœur. C'est une rébellion qui monte jusqu'à Dieu, mais ces gens-là ne le pensent pas. Ils pensent que, oh, c'est juste envers les humains, mais moi, j'aime Dieu, je me soumets à Dieu. C'est faux. Et ne soyons pas étonnés de cela, parce que certains d'entre nous pensent que c'est parce que moi je ne suis pas brillant qu'on n'obéit pas à moi. C'est parce que moi je ne fais pas des miracles que les gens ne m'écoutent pas. C'est parce que je n'ai pas le titre de pasteur. Non, même les gens qui avaient ces titres-là, même les gens qui étaient illustres comme Paul, comme Pierre, ont expérimenté des résistances. On a parlé de Jean dans trois Jean, on a parlé de Diotrephe. Diotrephe a résisté à Jean. Et quand vous lisez 2 Corinthiens, mais c'est long, c'est trois chapitres. Quand vous lisez 2 Corinthiens 10 jusqu'à 2 Corinthiens 13, Paul est en train de se défendre vis-à-vis des gens que lui-même a convertis. Donc, lui-même les a convertis, lui-même les a amenés au Seigneur. Mais c'est des gens à un moment qui contestaient Paul. Donc ce n'est pas nouveau, il ne faut pas qu'on cherche des fausses excuses en disant « mais c'est parce que moi je ne suis pas ceci, c'est parce que… » Non, les humains sont comme ça. Et dites-vous bien que si quelqu'un ne vous écoute pas, alors que spirituellement Dieu vous envoie pour la personne, Dieu vous a établi pour la personne, il n'écoutera pas non plus la personne qui paraît brillante. Parce qu'on a souvent l'impression que « ah, mais moi, il ne m'écoute pas parce que je n'ai pas le titre de pasteur. » Et quand le pasteur dit « il suit », mais il suit aujourd'hui, mais il ne suivra pas toujours. Parce que c'est le même esprit dont qui l'amène à te résister à toi parce que tu n'as pas le titre de pasteur. C'est le même esprit qui l'amènera un jour à résister aussi à ce pasteur-là. C'est le même esprit qui l'amènera un jour à résister à Dieu parce que c'est une question d'esprit. Donc, il ne faut pas souvent, moi je vois souvent les bien-aimés que Dieu commence à utiliser, que Dieu commence à établir au milieu des enfants de Dieu, se soucier de dire, bon, moi on ne m'écoute pas parce que je n'ai pas de titre de pasteur, moi on ne m'écoute pas. Non, on ne t'écoute pas parce que ces gens-là ne sont pas des gens qui écoutent. Maintenant, ils donnent l'impression d'écouter quelqu'un d'autre parce qu'ils ont peur, ils cherchent un poste ou bien juste, voilà, il y a une peur charnelle. Mais cette peur charnelle ne peut pas produire la vraie soumission. Parce que si l'homme a pu se rebeller contre Dieu au jardin d'Éden, ce n'est pas un homme qui va garder l'homme soumis jusqu'au bout. Donc, un jour ou l'autre, même la personne qui semble craindre la parole. Je vais donner un petit exemple. Mais toi, par exemple, on te dit, ben, toi, tu es responsable de la chorale. Tu dis une chose, les gens ne t'écoutent pas. Mais quand le pasteur vient, il dit, les gens l'écoutent. Mais, alors tu te dis, mais ils écoutent que le pasteur. Mais non, ils n'écoutent pas le pasteur. Parce que s'ils écoutaient le pasteur, ils t'auraient écouté toi, parce que c'est le pasteur qui t'a mis là. Donc, en réalité, ils n'écoutent pas le pasteur. Et donc, en réalité, ils n'écoutent plus non plus Dieu. Ils n'écoutent pas non plus Dieu parce que s'ils avaient écouté Dieu, ils auraient accepté la personne que Dieu a établie. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe. Donc, les gens qui sont rebelles, ils le sont vis-à-vis de Dieu lui-même. Ce n'est pas une question d'homme. Maintenant, eux, dans leur tête, ils croient que c'est vis-à-vis des hommes. Et en réalité, c'est Dieu lui-même. Et quand on va remonter le fil, on va se rendre compte que dans leur vie, ils n'obéissent même pas à Dieu non plus. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu non plus. Mais en apparence, puisque nous venons tous prier, nous ne volons plus, nous ne sommes plus attrapés dans les boîtes de nuit ou quoi que ce soit. En apparence, tout le monde semble être attaché à Dieu. Mais la réalité, c'est que dans le paysage chrétien, il y a des gens qui ont une semence de rébellion en eux, qui n'acceptent pas de se soumettre à d'autres personnes, qui n'acceptent pas de suivre. Donc, ils veulent qu'on les suive, mais ils ne veulent pas eux suivre. Ça existe. Donc, il ne faut pas que ça nous dépasse, parce que des gens comme notre frère Paul ont subi ça. Puisque Galates, c'est un peu plus court, mais on peut voir dans Galates, Paul qui dit aux Galates, mais qui vous a ensorcelé? Donc, Paul était dépassé, le travail qu'il avait fait chez les Galates, mais qu'ils ont suivi une autre voie, Galates chapitre 3. Paul dit, « Ô Galates dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? » Donc Paul est en discussion avec les Galates, à qui il a apporté la parole. Mais à un moment donné, ces gens-là ont reçu d'autres enseignants, d'autres maîtres, et ils estiment qu'ils peuvent s'écarter des enseignements de Paul que Dieu avait établi pour eux. C'est pourquoi Paul dit, mais là, ça finit toujours mal. Paul dit, mais là, vous êtes devenus fous. Dieu a agi au milieu de vous par l'esprit. Il a agi par la foi. Maintenant, vous, vous suivez autre chose. Mais si Dieu voulait vous toucher par autre chose, il aurait dû commencer directement par ça. Pourquoi Dieu m'utilise, moi, pour vous apporter l'esprit et la foi? Maintenant, vous suivez d'autres personnes alors que c'est moi qui vous ai amené vers Dieu. Donc, ça va exister. Ne soyons pas surpris. Donc, il y aura des gens que nous aurions amenés dans la foi. On aurait donné les bons enseignements, mais par esprit de rébellion, par refus de suivre, ils vont vouloir se construire leur propre logique et leur propre doctrine. Donc, c'est des réalités auxquelles on doit se préparer en tant que futur responsable. Et ce n'est pas nouveau. L'homme est ambitieux, l'homme est orgueilleux. Dans son ambition et dans son orgueil, il va finir par entrer en rébellion vis-à-vis des humains en face. Et finalement, clairement vis-à-vis de Dieu, parce que dès qu'il entre en rébellion vis-à-vis des humains, il est aussi vis-à-vis de Dieu, mais ça ne se voit pas. Mais ça finira par se voir clairement qu'il est aussi vis-à-vis de Dieu. Donc que cela ne nous étonne pas. Voilà, oui.
Je voulais demander, ces genres de personnes sont-ils charnels ou bien spirituels?
Charnels. Voilà. Ok, nous continuons. Il y a un autre cas des chrétiens, c'est les chrétiens caméléons. Voilà, donc les charnels, caméléons, c'est des gens qui, en fonction du milieu où ils ont un comportement différent. Donc s'ils sont avec des gens qui parlent beaucoup de Dieu, eux aussi vont parler beaucoup de Dieu. S'ils sont avec les gens qui sont modérés, ils vont être modérés. S'ils sont avec les légalistes, ils deviennent légalistes. S'ils sont avec les gens qui sont modernes, donc pas question d'insister sur la Bible, ils deviennent aussi modernes. Donc c'est des chrétiens caméléons qui marchent en fonction de la couleur du milieu chrétien. Et ça, ce n'est pas normal. Donc ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de ligne. Nous devons avoir une ligne, bien sûr, établie selon la parole de Dieu. Et quand on est avec des chrétiens qui jurent, qui font des blagues bêtes, on fait. Quand on est avec les chrétiens sérieux, on devient sérieux et on change en fonction des milieux. Et ça, c'est des genres de personnes sur qui on ne peut pas compter. C'est des futurs traîtres. Un jour, ils finiront par choisir un camp et ça sera le mauvais toujours. Hein, parce que quand quelqu'un est déjà comme ça, donc il a un problème. Ça peut être un problème d'instabilité, mais ce problème d'instabilité cache toujours quand même la volonté d'avoir toujours raison. Parce que pourquoi il fait le caméléon? Parce qu'il veut toujours être dans le camp de la majorité. Voilà, donc quelque part, il cherche à avoir toujours raison. Là où les gens ont telle opinion, il prend la même opinion. Donc il veut être dans le camp du plus fort, du nombre. Donc c'est des personnes qui un jour, quand ils verront que le camp de la vérité est minoritaire et faible, ben clairement, ils prendront le parti du camp majoritaire du mensonge, de la fausseté. Et c'est ce jour-là qu'on verra clairement qui ils sont. Et donc, ce n'est pas normal qu'une personne soit bien avec tout le monde. Donc, on ne peut pas être bien avec tout le monde. Donc, quand on est avec les gens qui n'obéissent pas vraiment à la parole de Dieu, mais qui se disent chrétiens, on est bien. Quand on est avec ceux qui obéissent, on est bien, sachant que les deux groupes s'opposent. Donc, il y a un souci. Donc, c'est les chrétiens caméléons. Ça existe. Des gens qui ne veulent blesser personne. Des gens, lorsqu'il y a le nom de Jésus quelque part, ils acceptent tout. Et ils sont bien partout. Là, il y a un souci. Parce que dans la parole de Dieu, il nous est dit de nous séparer des frères qui prononcent le nom de Jésus, mais qui vivent le contraire. C'est dit dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. À partir du verset 9. Je vous ai écrit, dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Voilà ce que dit le frère Paul. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc l'apôtre est clair, nous ne pouvons pas nous mélanger avec des gens qui se disent chrétiens, mais qui se comportent à l'opposé de la foi chrétienne. Voilà. Maintenant, il dit qu'on ne peut pas couper donc, les relations avec les gens du monde qui vivent une vie de débauche. Ça, c'est autre chose. Ils sont du monde. C'est normal qu'on soit toujours en relation avec eux dans le but de les amener à Christ. Je dis bien en relation dans le sens où on est en contact. Voilà. Dans le but de les amener à Christ. Mais les gens qui font double jeu, donc les hypocrites et les caméléons, la parole nous demande de ne pas avoir de relation avec de telles personnes. Faire comme s'ils étaient des nôtres. Nous-mêmes, nous entrons donc dans le mensonge. Donc il faut... La relation qu'on peut avoir avec ce genre de personnes, c'est pour leur dire, il faut arrêter avec cette double vie-là. Nous t'aimons beaucoup, mais nous voulons que tu arrêtes avec cette double vie. C'est ça la relation que nous pouvons avoir avec de telles personnes. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc ce qui fait qu'un chrétien qui est bien avec tout le monde, forcément, en lui, il y a une semence de l'ennemi, de l'hypocrisie, du diable, le père du mensonge. Un chrétien doit avoir une ligne basée sur la vérité. La vérité va faire qu'on sera en paix avec tout le monde sans pour autant composer avec tout le monde. Donc on peut être en paix, mais on ne compose pas avec tout le monde. On ne compose qu'avec les gens qui marchent dans la vérité. Maintenant, on peut toujours être en paix avec tout le monde, mais le travail ensemble ou la composition, marcher ensemble avec les gens qui sont dans le faux, mais qui se disent chrétiens, ce verset-là nous l'interdit. Oui.
De façon pratique, si ces gens-là ont un besoin ou ils veulent de la visite de nous, ils nous appellent et ils aimeraient qu'on les visite. Tout en sachant qu'on les a déjà confrontés avec un comportement qui n'est peut-être pas bien, tout ça, ils ont entendu et ils nous appellent quand même pour venir les visiter. On continue?
Non, si c'est pour encore dire la même chose, d'accord? Si c'est les visiter pour leur dire que votre situation n'est pas conforme aux Écritures, là, il n'y a pas de souci. Mais si c'est les visiter, rester amical alors que vous savez la réalité, ça, ce n'est pas bon.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Eux demandent une telle chose. Donc on
Nous, on refuse.
On refuse.
Voilà.
D'accord. Parce que dans Job 6, 14, ça dit « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. »
Mais ils souffrent. Eux, ils ne souffrent pas. Celui qui souffre, donc il y a des gens qui sont dans le péché, mais qui reconnaissent « Je suis dans le péché, aidez-moi. » Mais il y a des gens qui sont dans le péché et disent « Ah non, vous exagérez, c'est pas mauvais. » Et d'ailleurs, tel verset dit ceci, tel verset cela. Voilà, donc c'est des gens qui mélangent les deux. Voilà, c'est pas la même chose. Là, c'est lui qui souffre effectivement, qui est dans le péché, mais qui ça crée la souffrance en lui. Mais là, on doit venir au secours de telle personne.
Qui l'amène à la repentance.
Oui, donc, ouais. Mais qui en souffre? Donc on vient à l'aide de telle personne. Mais celui qui n'en souffre pas, on va l'aider de quoi? Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est caméléon.
OK, juste pour résumer, la personne peut t'appeler pour venir la visiter ou le visiter, et il est en souffrance, mais la souffrance est à cause qu'il pratique ce péché, un péché.
Mais c'est ça. Donc puis, on vient visiter pour aider la personne à s'en sortir.
D'accord.
Mais visiter comme si la personne était normale, non, on ne peut pas faire ça. Oui.
Maintenant, un chrétien qui marche dans la vérité, qui est véritablement dans la vérité et qui, ma question c'est où elle ouvre la différence entre justement le chrétien camélon, mais qui reste sur la même vérité et
camélon il reste pas sur la même vérité.
Celui qui reste dans la volonté de Dieu.
Un caméléon.
Non, pas un caméléon, mais en fait la question c'est que en fait, tu vois le verset où Paul dit avec les Juifs j'étais comme avec Juifs afin de gagner, enfin tout à tous quoi.
Ah, mais ta question c'est quoi? Je comprends pas.
Bah elle est où la différence entre
entre 1 Corinthiens 9 oui. 22 et non, Paul parle par rapport à la loi. Ah, donc okay. Les Juifs suivaient la loi, nous les non-juifs, Paul disait, il ne faut pas nous contraindre à suivre la loi. Mais la loi est quand même écrite dans la Bible. Ce n'est pas comme certains disent, un chrétien un jour m'a dit, moi j'ai fumé pour évangéliser. Donc,
Ça c'est péché.
Moi je lui ai posé la question après, est-ce que tu peux me montrer les chrétiens que tu as convertis par tes méthodes? Zéro chrétien. Voilà. Bref, ce n'est pas... Paul, quand il dit qu'avec les Juifs, j'ai été comme avec les Juifs, il est en train de parler de la loi. C'est-à-dire que quand il est avec les Juifs chrétiens continuaient à fêter les fêtes d'avant Jésus. Et donc, Paul continue, quand il est avec eux, il fêtait ça, mais c'est des fêtes qui sont quand même dans la parole. Donc, ce n'est pas un péché de les fêter. Voilà. Maintenant, quand il est avec les païens, nous, les non-juifs, eh bien, les non-juifs, donc les Grecs et autres, ne fêtaient pas ces choses-là. Ils s'adaptaient. C'est au sujet de la loi. Ce n'est pas un problème lié au péché ou à une
façon de vivre. Non, mais quand c'est pas forcément lié au péché, mais justement que la personne, je ne sais pas, elle est bien avec un tel ou un tel, mais elle ne pêche pas.
Mais comment tu peux être bien avec un chrétien escroc?
Bien dans le sens...
Le chrétien vient de faire un coup, il te dit, je viens de faire un coup là, aller boire quelque chose.
Non, mais pas avoir une relation amicale, mais bien, enfin, parler normalement avec la personne, quoi.
Mais parler de quoi? Parce que lui, il est clairement dans deux systèmes. Toi, tu vas parler de quoi avec lui?
Non, mais pour le gagner.
Oh. Non, lui, il est en train d'expliquer qu'il est dans le bon.
Ah, okay.
Tu vas le gagner comment? S'il est en souffrance, oui, mais lui il n'est pas en souffrance.
Mais si maintenant nous on est conscient que cette personne-là elle est dans le faux, même si elle dit qu'elle est dans le bon, nous on peut pas aider cette personne-là pour justement lui montrer que clairement ce qu'il fait c'est mauvais.
Mais donc on n'a pas une relation normale parce que notre relation c'est limite juste à dire tu es dans les péchés, sors de là.
Ah ok, non, c'est ça.
Voilà, il y a pas de relation normale, voilà, il y a pas. Mais quand on voit tout le temps, bon, mais est-ce que tout le temps tu vas lui dire sors dans le péché? Non. Donc à un moment ça doit se couper puisque c'est écrit ôtez le méchant du milieu de vous. C'est écrit clairement. Et bon, je ne cite pas, c'est trop tard, je vais le citer. L'apôtre Jean va loin dans 2 Jean, il dit, il ne faut même pas lui dire salut, quoi. Voilà. Puisque salut, c'est lui dire, tu es sauvé. Parce que nous, aujourd'hui, salut, c'est devenu bonjour. Mais salut, ça veut dire, tu es sauvé. Donc, il ne lui dit même pas salut. Il n'est pas sauvé. Voilà. Donc, une telle personne, vous allez vous rencontrer, bon, frère, on va prier. Oh, comment tu l'appelles, frère? Donc, tu ne peux pas l'appeler frère. Tu ne peux pas l'appeler sœur. À moins qu'il soit en souffrance. Voilà. S'il est en souffrance, ça, c'est différent. S'il est normal, là, c'est un chrétien à double vie. Donc, on ne peut pas composer avec de telles personnes. Et il y a des chrétiens caméléons qui sont bons avec tout le monde, avec les catholiques, il est là. Avec les évangéliques, il est là. C'est ce qu'on retrouve en Afrique. Oh, mais c'est un abbé tel qui a prié pour moi. Mais toi, comment abbé tel qui va prier pour toi, tu es dans la Bible? Il y a un problème. Oui.
Oui, en fait, je voulais savoir, est-ce qu'on doit également se séparer, par exemple, de personnes qui se disent chrétiennes, mais qui vivent sans assemblée ?
Qui ?
Qui vivent sans assemblée.
Oui, qui n'ont pas d'église. Sans assemblée, dans quel esprit ? Parce que s'ils vivent sans assemblée, mais dans une recherche, il n'y a pas de souci. Mais s'ils vivent sans assemblée, dans un esprit de rébellion, de refus d'autorité, donc ils sont contraires à la parole de Dieu. Voilà. Donc on doit être là pour les exhorter à revenir. Maintenant, si eux, ils estiment que c'est leur mode de vie, on doit s'en éloigner petit à petit. Voilà. Cette mode de vie-là, ce n'est pas la mode biblique. Oui, derrière.
Oui, pasteur Moshé, moi ma question c'est par rapport au verset que tu as donné dans Corinthiens 5, 13, on demande d'ôter le méchant du milieu de nous. Donc est-ce que tu peux expliquer le verset, parce que est-ce que dans ce cadre-là on parle d'excommunier une personne ? Si c'est le cas, c'est vrai que dans les églises de vérité, ce n'est pas forcément des choses qu'on voit souvent, des chrétiens qui sont excommuniés, ou c'est simplement prendre une distance, la personne peut évoluer au milieu de nous, et bon, on ne le calcule pas trop, quoi. Donc je ne sais pas si tu comprends ma question.
Oui, on peut excommunier. Ce que nous on appelle aujourd'hui excommunier, ce n'est pas écrit dans la Bible, le mot excommunier, mais on peut décider, comme c'est écrit là, ôter les méchants du milieu de vous.
Pourquoi c'est très peu pratiqué, non?
Parce qu'il n'y a pas de scandale qui amène vraiment à faire ça. Parce que quand Paul a parlé, par exemple, de sortir le fils qui avait pris la femme de son père, ça c'est quand même un scandale grave. Dans des scandales comme ça, eh bien, donc, on sort la personne, on lui dit tranquillement, ne viens plus ici. Voilà. Mais on ne vit pas ce genre de scandale. Donc pour le reste, c'est les gens commettent des péchés, on essaie de les conseiller, d'exhorter, de voilà. Le jour où on vit ce genre de scandale, on dira à la personne ne vient plus ici. Oui.
S'il y a un chrétien ou une chrétienne qui héberge une païenne, et la païenne dit qu'elle veut venir au Seigneur, mais elle désire habiter chez la chrétienne pendant un certain temps, mais arrivée chez elle, on a l'impression qu'elle est agacée, qu'on lui parle tout le temps du Seigneur. Mais on ne peut pas lui dire « rentre chez toi », mais on la laisse à la maison. Mais je ne sais pas comment formuler la question.
Nous, la Bible ne refuse pas qu'on aide les païens. Là, nous sommes en train de parler des gens qui se disent chrétiens. Le verset parle de celui qui se dit frère et qui se comporte à l'opposé de ce qu'est un frère. Il ne parle pas de païens. Voilà.
Je parlais en fait, je ne sais pas comment expliquer, par rapport au caméléon en fait, comme vous dites que...
Oui, mais là, chrétien... là tu parles d'un païen qui est venu dans l'espoir de se convertir, mais c'est un païen, ce n'est pas un chrétien.
Ouais. Mais je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas grave.
Oui, mais tu l'as dit parce que tu as dit que c'est un païen. Je ne sais pas quelle explication encore faut donner. Voilà.
Je voulais revenir à la question de Christian. Paul dit de ôter le méchant. Le méchant dont il parle pas seulement de celui qui a fait le scandale. Il parle du calomniateur, de celui qui est idolâtre.
Oui, mais il faut que ce soit un scandale, parce que vous allez, dans ce cas, on va nous tous sortir. Voilà, donc c'est clair qu'il n'est pas en train de dire... Voilà, donc c'est, il faut que nous, c'est en fonction de la gravité des choses. Voilà, quand vraiment il y a la destruction. Mais bon, nous aussi on applique la méthode, il y a plusieurs médicaments. Nous on applique aussi l'excommunication par la prière. Donc pendant la prière, on est à 4 ou 5, quelqu'un sème le trouble, on le chasse dans la prière et puis Dieu va le chasser physiquement. Voilà.
D'accord. Cet homme est charnel, cet homme dont on parle, l'homme caméléon.
Ah oui, il est charnel.
Il est charnel. Mais Paul, dans 1 Corinthiens 3, il a quand même parlé aux hommes charnels dans le but de les exhorter. Est-ce qu'il a parlé aux hommes au début du chapitre 3? Il a parlé aux hommes, il dit que je ne vous ai parlé pas comme des hommes spirituels, mais comme des charnels. Je vous ai donné la nourriture, je vous ai donné le lait pas la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la supporter. Mmh. Est-ce que cet homme, on peut espérer quand même à son changement?
Ah mais oui, mais nous sommes en train de parler des chrétiens charnels. Nous ne sommes pas en train de parler des infiltrés.
Oui, donc
qui sont là en mission diabolique. Nous parlons des chrétiens charnels. Donc tout chrétien charnel, nous voulons son changement. Notre étude biblique, c'est dire aux gens qui se disent spirituels, supportez les chrétiens charnels parce que c'est l'environnement chrétien. C'est ça le but. Le but, d'ailleurs, c'est ça.
D'accord.
Voilà. Le but de cette étude biblique, c'est dire à chaque chrétien, supporte les chrétiens charnels que tu vas voir dans ton environnement parce que c'est comme ça. Tu ne vas pas changer ça. Ça a toujours été comme ça. Ça restera comme ça jusqu'au retour du Seigneur. Parce que beaucoup de chrétiens commencent à commettre des péchés à cause des chrétiens charnels qui les entourent. Ils commencent à les détester. Ils commencent à en parler du mal. Mais ils font pareil en faisant ça. Nous, on est en train de dire, il y aura toujours ça. Apprenons à supporter ça, à prier, à travailler pour que ces gens la changent. Mais sachons qu'il y aura toujours ça. Voilà, c'est ce que nous sommes juste en train de décrire le paysage afin de nous aider à diminuer l'effet de surprise qui peut nous amener nous-mêmes à pécher. Voilà, c'est ça le but.
Oui, oui. Pasteur, en fait, c'est par rapport à Kawakung, elle disait que, en fait, elle voulait expliquer que si la personne désire s'approcher du Seigneur, en fait, une païenne, et qui demande à être hébergée pour être soutenue, en fait, parce que toute seule, elle est angoissée, elle n'est pas bien. Et en fait, cette personne, tu as l'impression qu'elle veut s'approcher de Dieu, mais quand elle est en contact de chrétiens, qu'on parle du Seigneur, on parle de Jésus, ça l'agace, ça l'énerve. Et elle se posait la question que le fait d'arrêter d'en parler, est-ce que c'est d'être caméléon, en fait?
Ce n'est pas le... Non, il faut écouter le Saint-Esprit. Moi, je ne peux pas savoir si ça vient du Saint-Esprit qui te demande de garder silence et de laisser ce qui a été dit avant faire son effet. Moi, je ne peux pas savoir parce que c'est la personne... Moi, je dirais que chacun écoute le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous amener à garder silence parce qu'on a déjà parlé. Voilà, et à manifester le fruit de l'Esprit qui va convaincre, comme c'est écrit dans 2 Pierre chapitre 3, que certaines femmes... par leur comportement, peuvent gagner leur mari sans parler. Voilà, donc ça dépend du Saint-Esprit. Maintenant, si on se tait parce qu'on a peur, là c'est autre chose, ça c'est pas bon. Si on se tait parce que, voilà, par calcul humain, c'est pas bon, mais si le Saint-Esprit nous convainc de nous taire, il n'y a pas de problème. Voilà, oui.
Oui, pasteur, désolé, j'ai pris l'enseignement en cours, donc je ne sais pas si tu as répondu à la question. Là, dans le verset, ôtez le méchant du milieu de vous, le méchant c'est qui? Est-ce que c'est le chrétien charnel ou est-ce que c'est l'infiltré?
Ah non, le méchant, c'est la personne à scandale qui est vraiment dans un travail de destruction. C'est ça le méchant.
Donc un infiltré?
Pas forcément. Ça peut être un chrétien charnel aussi. Oui, oui, il y a quelqu'un derrière.
Oui, pasteur, comment on peut savoir que ce chrétien, c'est un chrétien qui est scandaleux parce qu'il est bien avec tout le monde, il parle toujours de la parole?
Non, comment... les œuvres seront visibles. Nous, on est des humains, on ne peut pas agir parce qu'on a rêvé de quelqu'un en mal. Non, donc, c'est... donc nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons que travailler en fonction des œuvres visibles.
Même s'il parle de la parole à chaque fois.
Oui, il faut attendre les œuvres visibles pour sortir le méchant du milieu d'entre nous.
Merci.
Voilà. Oui.
Moi, je reviens encore sur la question des deux chrétiens. La Bible dit qu'il faut ôter le méchant au milieu de nous. Et de l'autre côté, on dit non, il faut, tu viens de le dire. Donc, on ne va pas chasser ceux qui sont charnels. Donc, je ne vois pas la limite entre ôter et puis chercher encore à les ramener dans la vérité, au fait.
Ah
je
ne
vois pas trop
mais,
la limite.
Ôter le méchant, ce n'est pas, on ne parle pas de chrétiens charnels. Là.
Ah, le méchant, ce n'est pas charnel.
Le méchant, il peut être un chrétien charnel, mais ce n'est pas forcément un chrétien charnel. Ça peut être un faux, un infiltré. Toujours est-il que le méchant, c'est quelqu'un qui agit d'une manière évidente pour détruire. et que cette destruction est devenue un scandale. C'est dans ce sens-là que Paul dit, de telles personnes, nous devons les ôter du milieu de nous. Voilà. Voilà, nous continuons avec les chrétiens grands maîtres de prophétie et de vision. Il y a des gens qui sont tout le temps « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit » et la Bible n'est pas utilisée. C'est juste « Dieu m'a dit ». Donc, ils sont devenus une Bible pour eux-mêmes. Voilà, donc c'est dans leur fonctionnement, ils se sont établis, auto-établis comme prophètes. Donc, c'est que les visions, les songes, les « je sens que Dieu veut que » Donc, moi, je pense de telles personnes, on va les rencontrer aussi dans les milieux chrétiens. Apprenons à répondre toujours par rapport en utilisant la Bible. Donc, apprenons qu'il y aura toujours de telles personnes. Quand nous entendons quelqu'un passer 80% de son temps à dire toujours Dieu, Dieu m'a dit, Dieu veut, mais qui n'utilise pas la Bible, soyons prudents avec de telles personnes, parce que c'est des personnes qui ne cherchent pas Dieu, mais qui cherchent à faire leur propre volonté. Dans Colossiens 2, c'est écrit ceci, que personne, verset 18, Colossiens 2, verset 18, que personne sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Sans s'attacher au chef, il ne s'attache pas à Jésus, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Donc c'est des gens, au lieu de parler de Jésus, au lieu de parler de la Bible, ils parlent de leur vision, de leur prophétie. Et il faut savoir que toutes les sectes ont commencé comme ça. Branham, c'est vision. Mohamed, vision. Mahomet, donc c'est vision. Donc tout ce que vous voyez comme secte, Joseph Smith, les Mormons, c'est les visions. Donc ils arrivent à captiver les gens par leur vision. Si quelqu'un tire son autorité de ses visions, éloignez-vous de telle personne, d'une telle personne. Un vrai serviteur de Dieu tire son autorité de Jésus. Il tire son autorité de la Bible. Et il ne viendra pas vous dire, j'ai vu Dieu, il m'a demandé de... Non, il va venir travailler et c'est vous qui allez réaliser par son travail qu'il est vraiment du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de prophétiser. Au contraire, on doit prophétiser quand Dieu nous demande de parler. Mais l'autorité viendra de l'autre prophétie et non pas de nous-mêmes en utilisant la prophétie comme moyen de faire peur aux autres. Non, il faut que ce que nous produisions s'impose sur les autres et non pas notre propre publicité en disant « j'ai vu telle chose, j'ai vu telle chose, j'ai vu un ange qui est venu me voir et voilà l'autorité qu'il me donne. Donc vous devez m'écouter. » Ah, vous dites « non, non, non. » Nous, on écoutera la personne qui nous amènera la Bible et parlera de la parole de Dieu. En utilisant la Bible, c'est cette personne que nous écouterons. Et nous n'excluons pas les prophéties, mais toutes ces prophéties, toutes ces visions doivent aller ensemble avec déjà ce qui est écrit dans la Bible. Donc c'est ça le travail du chrétien. Examiner toutes choses. Vous savez qu'il y a tant de versets qui en parlent, hein. 1 Thessaloniciens 5, 20 nous demande d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. N'éteignez pas les prophéties, mais retenez ce qui est bon. Voilà, on n'éteint pas les prophéties, mais on examine. L'apôtre Jean dit, il faut examiner. Tout esprit n'est pas de Dieu. Il faut éprouver les esprits. Donc, on a plusieurs passages qui nous parlent de tout cela. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se laissent impressionner parce que, surtout quand on entend les témoignages, j'étais autrefois un grand sorcier. Tous les chrétiens disent « Ah, c'est lui vraiment qui va nous aider à vaincre le diable parce qu'il était dans le monde. » Mais quand il était dans ce monde-là, mais lui-même il était escroqué, il était trompé par le diable. Et tous ils disent qu'ils étaient des généraux, donc finalement le diable a commis des généraux. Voilà. quand ils font ces témoignages, j'étais moi, j'étais un général du diable. L'autre va dire, j'étais la femme du diable. L'autre va dire, j'étais l'adjoint du diable. Donc, ils sont combien des adjoints? Donc, tous, ils étaient trompés. Maintenant, ce n'est pas eux qui vont nous apprendre à vaincre le diable, c'est le Saint-Esprit. Celui qui est en nous, 1 Jean 4,4, est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, qui a le micro?
Oui, ma question, je vais essayer de bien la poser. Oui, quand est-ce que ça peut arriver que, parce que c'est vrai, ce que tu viens de dire, il faut que quand on a une vision ou un songe, c'est ça, ça peut être un songe, c'est ça?
Oui.
D'accord, quand on a une vision ou un songe, il faut que ça puisse être voilà, en accord avec la Bible. Est-ce qu'une personne qui, parce que souvent, on peut dire, voilà, Dieu peut... peut-être parler souvent une personne par des songes ou des visions. Et si la personne commence à dire que non, bon, moi, Dieu me parle beaucoup par des visions, par des songes, est-ce que ça pourra finir par que le diable puisse glisser aussi des choses dans...
Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est que moi, Dieu me parle. Oh, mais non, mais Dieu nous parle par sa parole. Maintenant, on a chacun ses dons. Tu peux avoir le don de recevoir régulièrement des visions, mais c'est secondaire, c'est petit par rapport à la parole. Donc, tu dois toujours avoir une attitude où tu donnes la petite place à ce don-là plutôt par rapport à la parole. Vous savez, qu'est-ce qui a perdu le jeune prophète de 1 roi 13? C'est les visions. C'est les visions. Le jeune prophète de 1 roi 13 a été ferme. Dieu l'a envoyé parler au roi Jéroboam. Lui dire, arrête avec tout ce que tu fais comme un péché. Et Dieu a fait des miracles extraordinaires en parlant à Jéroboam. Mais finalement, Jéroboam lui propose d'aller manger. Il refuse. Il résiste à cela. Et il résiste à un roi. Il résiste à un roi. Le roi lui dit, mais comme tu as fait tout ça, je reconnais que tu es un vrai homme de Dieu. Viens manger avec moi. Viens prendre des richesses. Il résiste. Il dit non à ce roi-là. Et puis, finalement, il prend son chemin. Le vieux prophète vient le voir. Il lui dit, je viens d'avoir une vision. Un ange m'a dit que tu dois manger chez moi. Ce qui était l'ordre contraire à la parole de Dieu que Dieu avait donnée à ce prophète-là. Mais il a été impressionné par le fait que l'autre a dit, un ange est venu me voir. Et il a suivi. C'est comme ça que le jeune prophète a été mangé. Bien-aimé, quelqu'un ne doit pas tirer son autorité d'une vision. Si vous sentez que quelqu'un tire son autorité d'une vision, d'une escapade au ciel, d'une promenade en enfer, évitez cette personne. Quelqu'un vous dit, moi j'ai vu l'enfer, je me suis promené, j'ai vu les gens brûler, comprenez le message de Dieu. Non, déjà dans la Bible, on parle de l'enfer. Mais là, il peut raconter sa vision. Et après avoir raconté sa vision, il prend les Écritures, il insiste sur les Écritures. Mais si quelqu'un veut tirer son autorité des visions, tirer le poids de son message par de ses visions, faites attention, il y a un piège dedans. Un vrai serviteur de Dieu, il va avoir des visions. Ce sont des visions qui vont le motiver à mieux prêcher ce qui est écrit. Parce que ces visions vont confirmer ce qui est écrit. Maintenant, quand il commence à insister sur les visions, ça peut être vrai que c'était la vision de Dieu, mais ça veut dire que lui-même, il est devenu charnel. Voilà. Les visions, on peut les raconter, mais après, on insiste sur ce qui est écrit. C'est ça le comportement du chrétien spirituel.
Si je me souviens bien, il m'est arrivé à discuter avec certaines personnes. J'ai conseillé par rapport aux faux serviteurs, mais ces personnes m'ont souligné, m'ont rappelé le verset de 1 Thessaloniciens 5, « Retenez pas l'esprit ». Examiner, retenez ce qui est bon. Ils disent, même Paul a dit retenez ce qui est bon. Donc moi, quand je vais écouter de faux serviteurs, je retiens ce qui est bon. Le reste, je vais seulement pour écouter ce qu'il dit, je prends ce qui est bon. Que dire? Bon, si je me souviens bien, j'ai peut-être pas eu quelque chose à dire après.
Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut
qu'est-ce
dire,
qu'il faut dire c'est, premièrement, Paul ne dit pas qu'il faut écouter les mauvais serviteurs. Donc lui, il sait que c'est un faux serviteur, il va écouter. Donc Paul dit au contraire que de telles personnes, sortez le méchant du milieu de vous. Donc quand Paul dit qu'il ne faut pas éteindre l'esprit, il parle d'entre nous, vous savez que vous êtes dans la communion avec des gens qui sont vrais, donc on ne doit pas dire, on ne veut pas des prophéties, on veut pas, donc on ne doit pas éteindre l'esprit. Paul ne dit pas de tout le monde, c'est dans la communion des frères et sœurs, puisque les méchants, Paul dit qu'il faut les mettre loin de nous, il ne faut pas les écouter, il dit qu'une telle personne qui apporte un autre évangile, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Donc ça ne cadre pas avec 1 Thessaloniciens 5:20 qui dit « N'éteignez pas l'esprit ». Donc ce n'est pas la même chose.
Oui, je reviens sur le fait de ne pas avoir de relation avec des gens qui ne sont pas dans la doctrine. Il y a quelques années, j'avais témoigné à un gars qui s'est converti. Il était au début témoin de Jéhovah, il s'est converti, donc il est arrivé à l'Assemblée, il s'est fait baptiser, il a commencé à marcher avec le Seigneur. Et après, il est parti en région parisienne, donc on n'avait plus du tout le contact. Mais quand je l'ai retrouvé quelques temps après, il tenait un discours complètement différent de ce qu'il avait appris quand on était ensemble. Il me disait qu'il ne fallait plus rester dans les assemblées, parce que le fait de rester dans les assemblées, ce n'était pas du tout de la volonté de Dieu. Ça montrait qu'on était encore charnel et que le vrai homme spirituel n'avait plus besoin d'être enseigné par les pasteurs ou les docteurs de la parole. Il avait besoin simplement d'être enseigné par Christ lui-même. Et quand on a continué à débattre avec lui, il a fini par dire que la Bible, c'est la parole du diable. Je vais expliquer. Il dit, parce que la Bible, les magiciens peuvent l'utiliser, les sorciers peuvent l'utiliser, donc lui, il ne suit que le Saint-Esprit. La seule vérité, c'est le Saint-Esprit, parce que le diable ne peut rien contre le Saint-Esprit. Par contre, la Bible, le diable peut encore la manipuler. Et c'est à partir de là qu'on a coupé les relations. Plus jamais, j'ai gardé une relation avec cette personne, à partir de là.
Oui, quand c'est comme ça, donc on ne peut plus rien, parce que la personne dit que la Bible, c'est la parole du diable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut plus rien faire. Donc là, c'est... On le laisse donc entre les mains de Dieu, qu'on dit, bon, Dieu seul peut agir dans ce cas-là. Donc, parce que là, la crainte, c'est que certains aussi soient mondialisés comme ça, vouloir changer n'importe qui, c'est toi qui te fais changer, quoi. Donc, il faut faire attention. Tout le monde n'est pas appelé à affronter tout le monde. Donc, c'est ça aussi dont il faut tenir compte. Nous clôturons bien quand même avec le paysage chrétien n'est pas que... composé de chrétiens charnels et autres choses négatives, il y a aussi des choses positives. Il y a des frères et sœurs spirituels qui sont dans le paysage chrétien. Et nous allons lire quelques passages qui parlent d'eux et qui montrent en même temps en quoi ils sont appréciés par Dieu. Il y a d'autres passages que nous citerons rapidement comme ça, à la volée. Il y a d'autres qu'on lira. Nous prenons par exemple le cas de mon frère que j'aime beaucoup, Démétrius. Donc dans 3 Jean, il est question d'un méchant qui était là, Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux. Donc on a d'ailleurs commencé la série avec Diotrephe, entre autres, qu'on a cité les chrétiens charnels. On finit toujours dans 3 Jean, mais cette fois-ci avec un qui est dans la vérité, c'est Démétrius. Verset 12. 3 Jean 12, tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Voilà. Tous et la vérité elle-même. Donc l'apôtre va loin. Il dit, les humains, il n'y a pas que les humains. Même la parole, la vérité elle-même, peut attester que Démétrius est d'un vrai serviteur de Dieu, rende un bon témoignage à Démétrios. Nous aussi, nous lui rendons témoignage et tu sais que notre témoignage est vrai. Qu'est-ce qui caractérise les hommes spirituels? C'est que les gens vont rendre témoignage de leur vérité. Maintenant, quand on dit les gens, il s'agit d'autres gens aussi spirituels. Voilà. Donc, quand il dit tous, il est en train de parler de vrais chrétiens, c'est eux, ainsi que les apôtres eux-mêmes, ainsi que la vérité. Donc, Jean va loin pour dire, même si les hommes contestent, la vérité rend témoignage à Démétrios. C'est aussi une exhortation à ne pas nous quereller, nous battre pour prouver qu'on est vrai. Parce que la vérité rendra témoignage de qui nous sommes clairement. Donc c'est important, nous n'avons pas à chercher à prouver qu'on est vrai. La vérité s'en occupera. La vérité même rend témoignage à Démétrios qu'il est véritable homme de Dieu. Donc, quelle caractéristique nous est donnée de Démétrios? C'était un homme qui était dans la vérité. C'est important de nous attacher à la vérité. Être dans la vérité, c'est être prêt à se remettre en question, être prêt à reconnaître ses torts. C'est ça, être dans la vérité, c'est être prêt à se mettre en dessous et laisser la vérité au-dessus. Quand on veut avoir tout le temps raison, il y a un problème par rapport à la vérité. Et dans 2 Jean, juste à côté, au verset 4, c'est écrit, « J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. » Voilà. Dans la lettre de 2 Jean, c'est adressé à Kyria, qui veut dire une dame. Bon, on ne sait pas, comme ça veut dire dame, ça peut représenter l'Église. C'est adressé à Kyria, l'élu, et à ses enfants. Et l'apôtre Jean dit, il y a quelques enfants qui marchent dans la vérité. Donc, dans l'environnement chrétien, il y a aussi des gens qui sont dans la vérité. Voilà, il y a des gens qui sont dans la vérité. C'est attesté par la parole. Surtout cette lettre adressée à Kyria. Bon, à une dame, c'est qui cette dame-là, Kyria? Nos anciens, certains ont supposé qu'il s'agit de l'Église. Voilà, dans l'Église, il y a des personnes qui sont dans la vérité. Et Jean était très content. Voilà, la vérité, c'est important. Vous voyez bien que les vrais ne sont pas jugés en fonction de leur richesse ou de je ne sais quoi, de leur succès, mais parce qu'ils aiment la vérité, ils sont attachés à la vérité. Voilà, ils sont attachés à la vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Nous prenons encore un cas de Jean dont il est dit qu'ils sont vraiment de bons croyant, Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Luc 7. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. » mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. « Même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Donc, cet homme est loué par le Seigneur. Le Seigneur dit, « Voilà la foi que je cherche. » Donc, dans l'environnement chrétien, il y a des gens aussi qui ont la foi. Des gens qui aiment Dieu, qui croient en Dieu, et avec une foi qui peut déplacer les montagnes. Et ça existe aussi. Et donc, nous lisons les paramètres, aimer la vérité, avoir la foi. Dans Colossiens 4, 12, on nous parle aussi de notre combattant, Epaphras. Colossiens 4, 12, quand je cite ce nom, ça me rappelle notre frère Epaphras, le Chinois, qui avait décidé de jeûner 5 jours par semaine pour le salut de la Chine. Voilà, il portait vraiment le nom de son prédécesseur. Colossiens 4, 12. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, ça c'est Paul qui écrit, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. Donc Epaphras, qui était en prison avec Paul, mais il était originaire de Colosse, sans cesse en prison avec Paul, Paul était étonné de voir que Epaphras portait les Colossiens dans ses prières pour qu'ils tiennent bon dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas pour qu'ils deviennent riches, mais c'est pour qu'ils tiennent bon dans la volonté de Dieu, qu'ils aiment Dieu. Donc Epaphras, c'est quelqu'un qui assumait sa responsabilité d'apôtre par les prières. Il priait pour les Colossiens. Et il avait confiance que ses prières allaient avoir de l'effet. Un homme de vérité, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui fait confiance en la prière. Il sait que en priant, Dieu va agir, Dieu va façonner les choses, Dieu va travailler. Donc c'est important de comprendre ces éléments-là. Epaphras, Paul l'appelle serviteur de Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui atteste cela. Il combat pour vous dans ses prières sans cesse, hein, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Nous prenons aussi le cas de Philémon. Philémon. Philémon, les versets 1 à 5. Il est écrit ceci, « Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Aphia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Les saints, c'est les chrétiens. Pour tous les chrétiens. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. Voilà ce que dit Paul à Philémon. Il dit, vraiment, je remercie Dieu parce que j'apprends que tu as une vraie foi et que tu aimes les frères et sœurs. Et par toi, frère, beaucoup de frères et sœurs ont été tranquillisés. Donc Philémon faisait du bien. C'était un homme riche qui faisait du bien à tous les chrétiens qui l'entouraient. Maintenant, on n'a pas besoin d'être un homme riche pour faire du bien à tous les chrétiens. Donc Philémon était connu pour sa foi et pour l'amour qu'il témoignait envers les enfants de Dieu. Voilà encore un autre paramètre. Un homme spirituel va aimer les enfants de Dieu. Voilà. Il va aimer les enfants de Dieu. Il va toujours être positif envers les enfants de Dieu. Il va toujours vouloir les aider. Il va leur pardonner. Voilà, un homme spirituel, il aime les enfants de Dieu et Philémon aimait les enfants de Dieu et était hospitalier envers eux. Oui. D'ailleurs, il avait une église même dans sa maison. Il y a quelqu'un qui a demandé le micro derrière. Ah.
Je voulais juste, dans la même pensée, j'ai été touché un jour, je lisais Actes des Apôtres 4, au verset 36. Je voulais citer dans le même élan Joseph, qui était quelqu'un qui encourageait, par son comportement, encourageait les apôtres. Il est dit de lui, au verset 36, Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévitique d'originaire de Chypre, vendait un champ qu'il possédait, apporta l'argent et déposa aux pieds des apôtres. C'était quelqu'un qui encourageait les apôtres par son bienfait.
Amen, amen. Oui.
Oui, Pasteur Moshe, l'apôtre Paul, il dit aux Corinthiens qu'il était prêt à punir toute désobéissance lorsque l'obéissance des Corinthiens est parfaite. Et dans le psaume 1, on nous dit que le méchant ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Maintenant, l'étude qu'on a faite par rapport à l'environnement chrétien, est-ce que cet environnement et ces différentes catégories de chrétiens est permise parce que les chrétiens ne sont plus aussi carré, aussi dans la vérité qu'avant, ou simplement où faut voir les choses dans une perspective de salut, c'est que ces différentes catégories de chrétiens, les charnels, les caméléons et autres, ont besoin d'être sauvés.
Les méchants ne résistent pas dans l'assemblée des saints. On ne peut pas l'appliquer à notre situation intégralement. C'est vrai. Les chrétiens charnels. Il y en a peu qui sont vraiment méchants parmi les chrétiens charnels. Voilà. Il y en a peu qui sont vraiment méchants. Quand on dit les méchants ne résistent pas à l'Assemblée des Saints, c'est des gens qui sont animés vraiment dès le départ, en général avec des intentions, des motivations de destruction. Mais il peut se faire que des chrétiens charnels, dans leur légèreté et dans leur inclination à écouter leur chair, deviennent aussi méchants. C'est possible. Mais ce n'est pas, ce verset-là ne s'applique pas trop à eux. Maintenant, l'apôtre Paul a raison de dire que certaines personnes sont au milieu de nous parce que nous-mêmes, nous sommes désobéissants. Ce qui fait que Dieu ne peut pas les exclure, ne peut pas agir sur eux parce qu'il serait comme contraint d'agir sur les chrétiens tous. Donc, l'apôtre Paul dit, si notre obéissance grandissait, devenait parfaite, eh bien, Dieu sanctionnerait davantage les gens qui cherchent à détruire. Ça, c'est vrai. Donc, il y a des gens qui traîne parfois dans les milieux chrétiens à cause de la désobéissance des chrétiens. Je vais donner un exemple de désobéissance, le commandement de l'amour. Le chrétien a tendance à détester celui qui se comporte mal. Et ça empêche Dieu d'agir. Donc si nous pouvions respecter ce commandement d'aimer le mauvais, ça précipiterait l'action de Dieu sur les mauvais. Voilà, c'est un exemple que je retrouve souvent, le chrétien qui pense que Dieu ne voit pas et il s'anime d'une colère envers les mauvais. D'une colère qui traîne, quoi. Voilà, c'est pas une colère qui vient par surprise, mais qui traîne dans le temps. Non, c'est ce genre de désobéissance qui empêche Dieu d'agir, parce qu'il est écrit dans Jacques 1:20, Dieu n'agit, c'est pas la colère de l'homme qui va faire agir Dieu. Voilà, donc c'est une attitude qu'on doit changer en nous, de détester, que ça vient et on laisse ça s'installer, ce sentiment de détestation de gens mauvais, des gens à double vie au milieu de nous, des gens avec une volonté de détruire. Il ne faut pas les détester, il faut les aimer. C'est ainsi que ça va accélérer l'action de Dieu. Oui.
Pasteur, le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Donc le prochain, oui. Ça peut être un méchant, ça peut être un gentil, ça
voilà.
Peut, c'est tout le monde.
C'est tout le monde.
Donc on doit quand même les aimer.
Mais oui, oui.
Ça, hein.
Voilà. Mais le problème, c'est qu'on a tendance à... Voilà, c'est naturel. L'homme a tendance à associer le méchant à quelqu'un qu'il faut détester. Voilà, parce que naturellement, les méchants sont en prison, sont condamnés à mort. Voilà, et naturellement, on a tendance à détester celui qui fait le mal. Et surtout quand il se dit chrétien, quoi. Voilà, donc il faut résister à ça. Et aimer les personnes, c'est ça qui va précipiter, accélérer l'action divine. Oui. Qui a le micro? Ok, nous clôturons. Il y a Dorcas aussi. On va pas lire. Il y a Dorcas qui est Tabitha, qui faisait du bien aux femmes, hein, de telle sorte que quand elle est morte, Pierre a prié pour elle et est ressuscitée. Donc il y a plein d'autres personnes comme ça. Étienne, qui était vraiment spirituel, qui convertissait beaucoup de gens parmi les sacrificateurs et qui a prêché la vérité alors qu'il était jugé, alors qu'il était sous la menace d'être tué. Il a quand même prêché la vérité. Donc, nous voyons que dans les milieux chrétiens, il y a aussi des gens spirituels. Maintenant, dans Hébreux 11, on nous dit même que leur époque, les gens de leur époque, ne les méritaient pas. C'est vrai que les gens qui sont spirituels ainsi ont un tel comportement que les humains ne les méritent pas parce que les humains sont mauvais. Mais quand Dieu permet qu'il y ait de telles personnes spirituelles, ça montre encore son amour parce que ce sont des gens qui se sacrifient pour les autres, ce sont des gens qui aiment les autres, ce sont des gens qui sont là malgré les difficultés, malgré les oppositions. Ils continuent à servir Dieu dans la vérité. Et dans Hébreux 13, hein, je pense que de telles personnes, Dieu les compare à des anges. Et dans Hébreux 13, 2, il est dit « Exercez l'hospitalité envers tous ». Certains, en exerçant l'hospitalité, ils ont hébergé des anges sans le savoir. C'est vrai que ça pouvait être des vrais anges, mais je crois que ange, ça veut dire aussi messager dans la parole de Dieu. Ça peut être des serviteurs de Dieu que Dieu aiment tellement qu'ils les voient par leur comportement comme des anges. Vous savez, par exemple, Jacques on l'avait surnommé le juste, l'apôtre Jacques. Tellement il était droit, les chrétiens l'avaient surnommé le juste. Et donc, c'est de telles personnes qui ne méritent pas, que nous ne méritons pas, mais Dieu permet quand même de les placer pour continuer à exister à travers eux au milieu des humains. Oui, de telles personnes, l'apôtre Paul en parle, ou l'apôtre Jean dans une autre lettre, il dit que de telles personnes, il faut prendre soin de telles personnes. Voilà. Oui.
Quand on entend, depuis qu'on a commencé l'étude, il y a aujourd'hui, Moi, personnellement, ça me fait peur. Quoi. Je me dis, on dirait qu'il n'y a pas de... Bon, il y en a peu. Bon, voilà, quoi, pour être juste, il faut être parfait. Quoi. Il faut vraiment, vraiment être parfait. Donc, quand on parlait de moi-même, quand je m'examine, voilà, j'ai l'impression que c'est chaud, quoi. Pas jusqu'à créer des scandales, peut-être pas, mais bon, ça fait quand même peur quand tu te dis, bon, de nos jours, c'est vraiment, on les compte, quoi. Et quand on se dit chrétien, ça fait peur, quoi. Est-ce que, je sais pas.
Oui, moi, je pense que, voilà, on a besoin de se remettre en question et de marcher en homme spirituel. Et donc, le verset dont je parlais, c'est dans 3 Jean toujours, au chapitre 5, au verset 5. « Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage. » Là, il parle à Gaius, « d'une manière digne de Dieu. » Car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Voilà, de tels hommes, quand on les a au milieu de nous, il faut les aider, il faut les soutenir afin d'être ouvriers avec eux. Ils font peut-être des choses que nous, on n'a pas le temps ou bien on n'a pas la force. En tout cas, on n'a pas encore, peut-être été brisé suffisamment pour faire le même travail. Ben, quand on a de telles personnes qui se consacrent ainsi à Dieu, ainsi aux hommes qui aiment Dieu, qui ont la foi, nous devons être ouvriers avec eux par ce qu'on peut faire pour les aider à accomplir leur tâche. C'est ce que l'apôtre Jean dit, c'est important, parce que c'est des richesses, quand on a, c'est des dons de Dieu. C'est ce qui est écrit aussi dans Éphésiens 4, quand Jésus est monté, il a donné des dons aux hommes. Ces dons-là, c'est les apôtres, docteurs, pasteurs, tout ça. Mais c'est aussi tous ses frères et sœurs qui sont consacrés à Dieu, comme Démétrius, comme Gaius, donc dans 3 Jean, comme Philémon, et il y en a bien d'autres, Dorcas, il y a aussi Phobé, Diaconès de Sancré, donc il y a des gens que Paul cite, voilà, des gens qui à leur époque, ils ont été consacrés à Dieu au milieu des chrétiens, et j'ai cité tout à l'heure notre bien-aimé Epaphras de Chine, qui est resté célibataire, qui a vécu que pour l'Église du Seigneur en Chine. Donc, il y a des gens comme Alan Yuan. Donc, il y a jusqu'à notre époque, il y a encore des gens qui vivent pour le Seigneur, et passionnément, dans la vérité. C'est bien, comme notre frère Jean nous le dit, d'être ouvrier avec ces personnes-là, de les aider, afin qu'ensemble, nous récoltions les fruits de leur travail. Que Dieu nous aide à être aussi de telles personnes comme de telles personnes, afin d'être un don de Dieu pour l'Église, son Église, le corps du Christ, au nom de Jésus. Amen. Éternel grand Dieu, nous venons prier afin que tu nous aides à accepter la réalité du paysage chrétien, et tout en se laissant transformer pour être des hommes et des femmes spirituels, comme ça nous est décrit, des gens qui ont la foi, qui vont encourager comme Joseph Barsabbas, fils d'exhortation, qui vont encourager ton Église comme Dorcas, qui vont encourager ton peuple comme Gaius, Philémon, Démétrius, qui vont marcher dans la vérité et qui vont être donc une colonne comme Jacques le Juste, que les gens vont regarder pour se maintenir dans la vérité à travers ta parole, Seigneur. Et nous ne citons pas tous tes apôtres que tu nous as donnés comme des dons, les Paul, les Pierre, Jean, Matthieu, Seigneur. Merci pour Luc, pour tous ces gens-là qui sont des modèles pour nous. Nous prions que, à notre époque, que tu suscites d'autres personnes afin qu'ils soient des dons qui vont produire la véritable vie dans ton Église. Au nom de Jésus, Seigneur, aide-nous à nous remettre en question, à purifier nos vies, à te laisser conduire toutes choses dans nos vies, afin que ton Église soit bénie, malgré l'environnement qui est difficile, mais que la lumière de tels combattants spirituels soit plus forte que les difficultés de cet environnement. Nous nous attendons à toi, Père éternel, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse.